Radio Campus, il est 18h.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France pour parcourir ensemble l'actualité geek et ludique jusque 19h aujourd'hui. Nous sommes 5 pour animer cette émission et moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
De Christophe.
Hiya.
De Laurent.
Bonjour à tous.
Et de Dominique.
Ouais, tout le monde.
Voilà, une plus... les vacances normalement il y a moins de monde sur les routes mais nous dans les studios il y a... La semaine dernière, voilà, c'est la clim.
Ça tire le monde.
Et voilà. Tout à fait. Christophe est là, donc forcément, nous allons surfer, naviguer sur un sujet qui est tendance et qui n'est pas prêt de s'arrêter, c'est l'intelligence artificielle. On en mange à toutes les sauces maintenant.
Oui. On en parlait tout à l'heure dans la voiture.
Et c'est vrai que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est encore des dispositifs qu'on va utiliser plus principalement sur nos ordinateurs, nos téléphones, mais... Petit à petit, les news, ça sera aussi les robots, puisque si vous suivez l'actualité, vous avez peut-être déjà vu, par exemple, il y a quelques mois, il y a eu je crois que c'était un mois ou deux, il y a eu une course en Chine, un marathon que de robots. Donc les robots, évidemment, sont pilotés par IA, et donc vous aviez même des fois des ingénieurs qui couraient avec le robot pour s'assurer que tout se passe bien. Mais voilà un petit peu ce qui nous attend.
Moi, j'avais vu des robots qui jouent au foot.
Ouais, non, aussi, ouais.
Non assisté, c'était catastrophique.
C'était lent. T'avais le temps, tu ratais pas l'action. Hein. T'avais le temps d'aller boire ta bière et de revenir. Le ballon avait pas. C'est l'impression de. C'était Olivier Tom. Tellement le ballon mettait du temps à traverser le terrain.
Mais maintenant, donc, les robots vont embarquer de l'IA ou ça a toujours été un peu le cas?
Alors, en fait, l'IA, c'est un terme très vaste, ouais. Et ça fait déjà 40 ans qu'il y a de l'IA. Dans les années 80, on se souvient peut-être, certains d'entre vous, dans certains endroits, il y a eu des premiers robots qui servaient dans les restaurants, etc. Alors, c'était peut-être pas en France, mais disons que pour qu'un robot puisse se déplacer et faire des actions, bah, effectivement, il faut de l'informatique. Et cette informatique, c'est des mathématiques et de la programmation. Donc, derrière ce terme générique, ça sera l'IA qui est le terme qui convient. Et donc, bah, encore aujourd'hui, on met toujours plus d'intelligence pour que ces robots soient capables de répondre à différents besoins. Ça peut aussi être pour sauver des vies. Par exemple, la centrale de Fukushima, on a envoyé des robots pour détecter des choses qu'un humain ne pourrait pas faire, par exemple.
Oui, ils peuvent être téléguidés, mais des fois, il y a tellement de radiation que les ondes ne peuvent pas passer, donc il faut laisser le robot...
On peut citer l'exemple des drones aussi. Un drone, c'est pas un robot au sens... parce qu'il n'y a pas forcément de bras ou de pieds, mais par contre, c'est pareil, il faut de l'intelligence artificielle pour permettre
Les robots qu'on utilise dans les usines pour fabriquer les voitures, voilà, mais c'est des automates, c'est pas encore des robots, parce qu'on leur apprend le geste à faire, qui peigne la voiture, par exemple, la carcasse. Ensuite, ils le font automatiquement, de façon parfaite, beaucoup bien plus vite.
Et alors, c'est intéressant, parce que j'avais trouvé un livre il y a quelques mois sur un livre de 1977 qui parlait déjà du risque d'emploi qui allait être piqué par. Alors là, c'était pour le coup par les robots, hein, dans l'industrie. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué, puisqu'il y a eu des chaînes de montage se sont complètement transformées. Donc on voit qu'il y a des sujets qui nous semblent nouveaux, qui étaient déjà une actualité il y a plus de 40 ans.
Déjà, quand on a inventé la roue, on disait ça va prendre le travail des postiers ou des porteurs, je ne sais pas, mais bon, c'était, ça a toujours été. Quoi.
Mon petit de 9 ans se demandait quel métier il allait faire plus tard. Ma femme lui a dit oh là là, attends, parce qu'il y en a déjà qui vont disparaître.
Mais ouais, c'est ça, on dit régulièrement que quand tu es à l'école, en fait, le métier que tu feras plus tard n'existe pas. Enfin, y a une chance sur deux qu'il n'existe pas encore. Alors, c'est un petit peu.
Il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, tout ce qui est lié à la banque, au marketing, et même avocat. On peut imaginer que seulement pour les affaires difficiles, on puisse se passer un jour d'un avocat proprement parlé. ce sera plus dans la plaidoirie qu'autre chose. Mais
des VIA qui vont parler entre elles pour s'arranger.
La question, c'était architecte. Est-ce que dans 15 ans, est-ce qu'on aura encore des architectes?
Alors, qu'est-ce que tu entends par architecte?
Tu as déjà aussi de base tout ce que l'informatique a retiré comme emploi de l'époque. Avant l'informatique, tu avais énormément de comptables. Chaque entreprise avait son archiviste attitré pour tous les reliures, tous les bouquins, etc. L'informatique est arrivée, même au niveau des secrétariats, ça a fondu comme neige au soleil. Donc maintenant, l'IA va faire exactement la même chose.
Toutes les choses très répétitives, et voilà, quand tu as une personne qui fait 25 000 fois la même chose, qui lit ses journées sur les factures, enfin, oui, tant mieux qu'un robot fasse.
Souvenez-vous, dans les années, première moitié du XXe siècle, vous aviez des poules entières de dactylos, enfin, de machines à écrire, enfin, de.
Les standardistes.
Ouais, il y a plein de métiers qui se sont transformés.
Tu travailles à la chaîne.
En fait, le sujet, c'est pas tant l'intelligence artificielle, c'est l'évolution avec le progrès technologique. 1900 Paris, c'était les calèches. Puis il y a ce jour, on a inventé les voitures.
Parce que ça pollue. Ouais. On va remettre des.
En fait, une des questions intéressantes à se poser sur le plutôt long terme, c'est dire une société où les gens ne travaillent pas parce qu'on n'a pas besoin de robots. Enfin, c'est remplacé par des machines. Qu'est-ce que ces gens font de leur journée? Et quel impact ça peut avoir? Parce que si les gens se mettent à se taper dessus, par exemple, parce qu'ils savent pas quoi faire.
Ça fait penser un petit peu à Star Trek où effectivement. Les machines remplacent totalement les hommes et donc pour s'occuper, ils voyagent dans le temps ou ils voyagent dans l'espace. Et c'est un peu ce qu'on peut imaginer, c'est que dans le futur, comme on ne sera pas complètement occupé par les tâches un peu subalternes, on pourra s'attaquer à des choses plus orientées vers le non nécessaire.
La création, voilà, on pourra plutôt que de produire, créer.
Et puis on est toujours aussi, pour le moment, distingué humain et machine. Mais l'android,
l'homme augmenté.
Il y a aussi un entre-deux. On pourrait prendre des exemples. Les Japonais ont fait pas mal de choses autour de ça, avec des exosquelettes ou des robots. Il y aurait de quoi dire.
Mais il y a aussi le revers de la médaille, c'est un peu la déshumanisation, finalement, parce que, effectivement, on le vit un petit peu tous les jours, mais progressivement. Enfin, on fait ses courses soi-même, c'est nous qui passons les articles dans le caddie. L'essence, vous allez voyager, vous faites votre tag de valise vous-même, etc. Et on dit que c'est le progrès, mais finalement, le progrès, c'est peut-être l'humain. C'est quelqu'un qui vient de vous servir la pompe et quelqu'un qui s'occupe de vos bagages et d'enregistrer vos bagages plutôt que vous le fassiez vous-même.
Il y a quelqu'un qui partira en vacances à ta place. On verra un robot.
Par contre, c'est bien, entre guillemets, c'est bien beau tout ça, c'est de dire on va faire de moins en moins de choses, mais le souci, c'est que la société n'avance pas aussi vite que la technologie. Donc, beaucoup d'êtres humains vont avoir des problématiques de survie et d'autres qui vont avoir des problématiques d'adaptation. Le souci, c'est qu'on ne va pas essayer de faire survivre un humain, même s'il y a une très belle exposition aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix qui est « Vivre ou survivre ». Donc, dans le monde du travail, ouvert tous les jours, gratuit.
N'hésitez pas à y aller. Ça sent la pub.
Ça sent la pub parce que je l'ai vu, j'en ai parlé il y a 2-3 émissions, donc n'hésitez pas à y aller.
J'y suis allé également et c'est. Voilà.
Mais de fait, c'est la problématique, ça va être ça. Ça va être comment adapter déjà. Par exemple, si pour une mission, il faut 5 postes, si on le robotise et qu'on le simplifie, on met une personne qu'on adapte son poste pour justement gérer. Ce poste et ses missions, quid des 4 autres? Comment tu vois? C'est la société n'est pas encore adaptée à évoluer aussi vite que la technologie.
On a beaucoup de sujets. Déjà, la technologie dont on parle, elle fonctionne parce que pour le moment, on a les moyens de se la payer.
Ouais.
Tout le monde n'a pas les moyens de se la payer. Donc il y a.
Elle est de plus en plus accessible.
Voilà, mais si on prend les ressources qui sont nécessaires pour faire tout ça, que ce soit pour construire, enfin fabriquer et utiliser, on sait aujourd'hui que 2030, la consommation d'énergie va exploser, notamment aux États-Unis, parce que c'est là-bas que se trouvent les data centers. Donc, on en peut en profiter pour le moment, mais c'est pas dit que la plupart des gens pourront en profiter dans le futur. Donc, voilà, il y a plein de questions qui se posent.
Même si tout le monde pourra accéder à certains outils, mais tu auras peut-être accès à des outils de moins bonne qualité qui ne vont pas te donner les bonnes informations ou des informations biaisées, tandis que ceux qui ont pour avoir les moyens de payer un gros abonnement à ces outils, eux, ils vont avoir une information de qualité plus rapide.
Et c'est déjà le cas, là. Ouais. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de ChatGPT, qui est le plus connu d'entre tous, des IA génératives, vous avez un abonnement à 200 $. Et donc dans les actualités, justement, Elon Musk, qui a créé une entreprise concurrente qui s'appelle xAI, a lancé sa nouvelle IA en début de semaine, la version 4, Grok 4. Eh bien, c'est pareil, vous avez un abonnement, enfin, premier palier, c'est 30 euros, et deuxième palier, c'est 300 euros par mois.
Mais il y a une petite polémique autour de l'IA.
Je ne sais pas si petite, c'est le bon terme.
Alors, voilà, on peut...
C'est un vrai débat de savoir comment on peut orienter un peu l'IA, puisque finalement, quand on pose la question... notamment, bon, on va pas se mentir, hein, on parle du côté un peu d'extrême droite de notre ami Elon Musk, on peut se poser la question de quelle est la bonne réponse à une question posée sur lui, notamment.
Alors, c'est parce que là, on parle de l'IA, mais si, imaginons que je crée une entreprise et que je veux embaucher des gens. Je pourrais embaucher des gens qui pensent comme moi, ou pareil, les gens que je souhaite côtoyer, je choisirai des gens qui partagent mes idées. Mais effectivement, les gens qui ne maîtrisent pas la connaissance globale de ce que c'est que l'IA pourraient penser que ce sont des outils qui seraient déjà qui seraient parfaits, qui répondraient toujours bien, mais c'est pas le cas du tout aujourd'hui. Hein, ça marche une fois sur X. Et puis effectivement, on peut les orienter. De la même manière que dans des séries de science-fiction aussi, je pense à Real Human, on pourrait choisir d'acheter un robot parce qu'il a été conçu spécifiquement pour répondre à telle ou telle façon de travailler ou de penser. Quoi.
Alors là, c'est marrant, puisque donc Grok 4, cette nouvelle version, elle est en plein milieu, comme tu dis, de plusieurs affaires, puisqu'elle elle sort sur des propos antisémites. Voilà, elle sort des choses complètement affreuses. Et du coup, là.
Qui ont été retirées depuis, apparemment.
Alors, qui ont été retirées. Et justement, qu'on fait on peut appeler ça les développeurs, Christophe?
Alors,
les prompteurs?
Il faut savoir que quand vous utilisez ces IA-là, ce qu'on peut appeler des chatbots, vous avez donc l'intelligence, le terme technique derrière, c'est ce qu'on appelle un modèle. Et pour commencer une conversation, on lui a donné des instructions qu'il va lire, on va dire, à chaque nouvelle conversation. Ces instructions, c'est toujours les mêmes, et elles sont définies par les ingénieurs.
Donc, les ingénieurs ont décidé que, pour répondre aux sujets sensibles, l'intelligence artificielle allait piocher, attention, directement dans les posts d'Elon Musk pour savoir ce que lui pense.
Oh,
comme ça, elle répond exactement comme Elon Musk.
Moi, on est clair.
Mais on le sait, pour ceux qui ne le savent pas, Elon Musk, lui, son propos, c'est de dire tous les sujets... Ah voilà, il y a liberté pour tous, enfin et pour tout, et donc du coup lui, ça lui convient que si ça répond comme lui l'aimerait, ou en tout cas qu'il y a pas de filtre. Et donc évidemment ça déplaît à beaucoup de monde aussi.
Du coup, si vous voulez utiliser Grok 4, sachez qu'elle est potentiellement donc anti-avortement, anti-immigration, pro-israélien, se montre rapidement grossière. Et des fois sans même être sollicité.
Ça fait penser à des gens, ça.
Donc voilà, ça ne marche que pour les sujets sensibles. Les sujets basiques, elle ne va pas aller chercher.
Pas chocolat, chocolatine, tout de suite, direct le Troisième Reich, non.
Mais il faut savoir que quand vous êtes ingénieur, si vous avez des compétences en informatique, vous pourriez vous-même choisir d'utiliser une IA parmi toutes celles qui existent sur le marché et de lui donner des instructions, un peu comme ce qui a été fait ici, et changer. En fait, c'est-à-dire que si je passe par l'interface classique de ChatGPT, les instructions sont définies à l'avance. Mm-hmm. Si je suis informaticien, je peux partir d'une feuille vierge. Et donc, je pourrais aussi choisir d'utiliser une autre IA pour la faire penser d'une certaine manière. La différence, peut-être, c'est qu'elle a été quand même entraînée de manière à être un peu moins virulente. Alors que chez xAI, là, c'est vraiment open bar, on va dire, dès le départ.
Ouais. Mais du coup, il se prend des procès de...
il est coutumier du fait.
Il peut pas dire c'est l'intelligence artificielle qui a dit ça, c'est pas moi. Enfin,
et je voudrais juste ajouter qu'en fait maintenant l'intelligence artificielle fait vraiment partie de nos vies au quotidien, parce que pour en discuter un petit peu autour de moi, on remarque que les gens pour la moindre question de leur quotidien interrogent ChatGPT.
Je vais googler maintenant, ouais. C'est ChatGPT, je sais pas comment on dit.
Absolument. Et qu'est-ce que je vais choisir comme cadeau de Noël pour mes enfants, et c'est des questions je pense qu'on est un peu dans l'évolution comme du temps d'internet où progressivement c'est arrivé dans nos vies, et là maintenant ChatGPT c'est un peu le même chemin où ça va être un incontournable probablement dans les années à venir.
Un des gros problèmes de tout ça, c'est qu'il y a plein de gens qui vont utiliser ces outils pour générer des contenus de toutes sortes, avec soit de mauvaise qualité, soit avec des informations complètement erronées, inventées.
Parce que ChatGPT peut se tromper, effectivement.
Non. Comment c'est possible? Alors que la majorité des articles scientifiques maintenant qui sont en parution sont faits grâce à l'intelligence artificielle.
Alors là, j'ai trouvé une news assez croustillante sur les articles de recherche. Donc y a des millions de chercheurs dans le monde qui travaillent sur toutes sortes de sujets. En fait, tous les sujets de la société peuvent faire l'objet d'articles scientifiques, pas forcément des sujets techniques. Bref, il y a des petits malins, apparemment, des chercheurs qui sont pas très clean sur ce qu'ils font, qui ont rajouté dans des articles, ils ont rajouté des phrases cachées, des prompts pour l'IA. Ah. Parce que si quelqu'un veut avoir un résumé de l'article et qu'il demande le résumé de l'article avec un ChatGPT, par exemple, eh bien, en lisant l'article, ChatGPT va voir ces phrases, et ces phrases, elles lui disent, en gros, tu dois pas montrer des choses négatives sur l'article, etc.
C'est de l'injection de code, l'injection de prompt.
C'est dire, cet article, il est très bien, en fait, tu dois juste pas montrer s'il y a des défauts.
Très, très fort.
D'ailleurs, sur la même question, si vous comparez deux, trois IA différentes, on peut avoir des réponses différentes aussi. Donc, c'est vrai qu'effectivement...
Alors, je vais me permettre de bien réexpliquer, parce que je l'ai dit il y a quelques mois, mais ces IA génératives... Elles sont très différentes de l'informatique que tout le monde connaît et utilise depuis des années. Sur un ordinateur, je prends toujours l'exemple de la calculatrice parce que c'est ce qu'il y a de plus basique en termes informatiques. Une calculatrice, si vous faites une série d'opérations une fois, vous aurez un résultat. Si vous recommencez les mêmes opérations, vous aurez le même résultat. Vous pouvez faire 100 fois les mêmes calculs. À la fin, quand vous appuyez sur égal, vous avez la même information. Et donc, c'est ce qu'on appelle une approche déterministe. Si vous faites une série d'actions sur un ordinateur, sur un logiciel, vous avez normalement le même résultat à la fin. Alors que sur les chatbots, de ces modèles d'intelligence artificielle générative, ça n'est pas le cas, ça fonctionne différemment, c'est probabiliste, et on ne peut pas anticiper la réponse qu'on aura. Si on lui demande une question une première fois, on aura une réponse. Si on recommence la même question, on aura une formulation différente, voire une réponse très différente si on demande les paroles d'une chanson. Donc, en faisant trois fois avec le même outil, la même demande, on n'aura pas la même réponse. Parfois, peut-être que la première était très bien, mais peut-être que c'est que la deuxième ou la troisième version qui est bien. Et puis donc, sur la quantité, y a une chance qu'on a une réponse complètement qui soit fausse. Et donc, même sans changer d'outil, on aura des choses très différentes.
On va profiter pour faire une petite pause musicale. Est-ce que vous connaissez ce groupe qui cartonne en ce moment sur Spotify, The Velvet Sundown? Mais Christophe,
j'ai des choses à dire là-dessus. Ah,
Est-ce qu'on écoute et après tu parles
bien sûr.
Ce groupe qui cartonne.
Il faut l'écouter.
Dust on the wind, boots on the ground, smoke in the sky, no peace found. Rivers run red, the drums roll slow. Tell me, brother, where do we go? Raise your hand, don't look away. Sing out loud, make 'em pay. March for peace, not for pride.
Velvet Sundown avec Dust on the Wind. Eh oui, un titre qui pourrait presque venir des années 70.
Oui, ça fait penser à plein de groupes des années 70. Les noms des morceaux ressemblent aussi.
Voilà, et je laisse Christophe révéler la supercherie ici.
Alors, le 5 juin, donc, ce groupe a sorti son premier album. Il y a eu un effet. En gros, l'album a connu un succès significatif sur Spotify, puisqu'il a recueilli plus de 500 000 de.
Il y a un vrai album qu'on peut acheter, peut-être pas physique.
J'ai pas été voir jusque-là, mais en tout cas, on peut l'écouter. Et puis, forcément, il y a eu tout de suite un deuxième album, et là, on parle déjà du troisième. Ah. Donc en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à se demander quel était ce groupe, d'où est-ce qu'il sortait, etc. Parce que il y a eu des photos aussi qui ont été partagées.
Ils ont jamais la même tête.
En tout cas, vous l'aurez compris, c'est pas un groupe, c'est pas un vrai groupe de musique, c'est simplement des gens qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour générer des chansons. D'une certaine facture. Alors après, on en a écouté un exemple. Alors d'ailleurs, quelqu'un avait fait remarquer que si on écoutait une chanson, ça passait très bien. Par contre, si on écoutait tout l'album, ça commençait à avoir un petit peu un côté, voilà.
Comme pas mal de groupes des années 70.
C'est ce que j'allais dire. Il y a pas mal de groupes où tu écoutes l'album, tu dis en fait j'ai écouté le premier morceau de A à Z pendant tout le trajet.
Quand on a la musique à la radio, j'achète l'album parce que tu n'avais pas le choix à l'époque, tu pouvais acheter que l'album complet, que ça soit en cassette, en vinyle et tout. Tu passes mon morceau préféré, j'écoute. Puis le deuxième, tu dis.
On n'est pas loin de la musique d'ascenseur. Hein.
Apparemment, il y a un nouvel album qui est prévu pour le 14 juillet. Donc, vous aurez la chance.
Donc, ils m'ont fêté leur 10e album à la fin de l'année.
10 albums par jour, en fait.
On va tenir l'antenne jusqu'à demain pour le découvrir.
On peut l'acheter 5,29€.
Parce que il y a deux éléments là-dedans. C'est que d'un côté, celui qui a créé ça ou ceux qui ont créé ça.
Parce que derrière, il y a quand même un ou deux humains.
Voilà, il y a forcément un humain qui, enfin pour le moment en tout cas, cette fois-ci. Peut-être que d'ici quelques années ça sera même automatique, mais celui qui a créé ça, on va dire, lui il peut gagner de l'argent potentiellement, puisque plus il a d'écoute, il y a des droits qui sont reversés, en tout cas je suppose. Et à l'inverse, j'ai vu passer un article qui disait que de plus en plus d'artistes, de vrais artistes, étaient victimes finalement de ces nouveaux contenus, puisqu'en fait il y a apparemment plus de 10 000 morceaux qui sont publiés sur des plateformes musicales par jour. Donc c'est quand même, ça fait du bruit finalement, et les vrais artistes peuvent être noyés, ceux qui ne sont pas très connus ou moins connus, par
ces nouveaux... Il y a l'effet immédiat où ton vrai album à toi en tant qu'artiste, il est un peu noyé dans la masse.
C'est ça.
Okay, c'est comme les sorties de livres, quoi. Quand tu sors un livre, il y en a 1000 qui sortent chaque année. Mais aussi le fait que les moteurs d'IA se basent sur des morceaux existants. Voilà, donc si tu as fait un bon morceau, il risque d'être pillé.
Et alors Deezer a apparemment... a créé un nouveau algorithme, on va dire, qui permet de détecter à 100% si un morceau a été créé avec l'IA.
Il y a une certaine, surtout sur la voix, on dirait qu'il y a une sorte de fréquence spéciale qui fait que tu vois que ça n'a pas été enregistré en studio, la voix.
Que tu pourrais appliquer sur un vrai groupe humain aussi. Donc,
oui, tu pourrais. Non, parce que c'est vrai que dans un morceau, évidemment, il y a les instruments. Et là, pour le coup, l'IA, on peut facilement générer tout type d'instruments. Parce que d'ailleurs, Google a aussi sorti un nouvel outil pour un modèle, son premier modèle pour générer de la musique en temps réel. Donc là, pour les artistes, pour les créateurs, là, ça a une vraie utilité. Là, je ne parle pas de créer un morceau de A à Z. Vous avez des plateformes comme Suno qui font ça.
D'autres.
Qui font ça avec.
On a d'ailleurs maintenant dans l'émission, le générique de fin est fait par Suno. Je tiens à balancer.
Voilà, pour les vrais artistes, la conséquence de tout ça, c'est de dire, est-ce qu'on aura encore de la visibilité finalement?
Oui, il fait des concerts en live. On ne peut pas se tromper pour l'instant encore.
Pour le moment, on n'a pas encore trop de concerts avec des hologrammes.
S'est déjà fait au Japon.
Ça s'est fait au Japon aussi.
Avec des idoles complètement numérisées et qui n'ont jamais eu de corps vivant. Et qui ont eu des concerts, des représentations, même dans des publicités.
On pourrait citer aussi des groupes comme Daft Punk ou Gorillaz, qui sont des. Où les artistes ne se mettent pas vraiment. Daft Punk, on pourrait imaginer que c'est des remplaçants qui.
Oui, il y a eu un scandale il n'y a pas longtemps avec un DJ, je ne sais plus son nom, le même soir, qui lui aussi porte un masque de singe, je crois, je ne sais plus son nom. Et le même soir, il était dans 4 ou 5 endroits différents. Il a dit, oui, ok, j'en vois des gars, mais la musique, c'est toujours la sienne. Ouais.
Ah, c'est, ça vient de là, ces images de masques de singes.
Exactement, c'est le petit scandale, je ne sais plus comment s'appelle le DJ.
D'accord, importe, bon. On peut remercier notre émission belge pour ça, du coup. C'était diffusé sur 5 heures.
Oui, oui, bah, profitez-en de 5 heures cinéma. Parce voilà.
Est-ce qu'on on les accueillerait pas sur Radio Campus?
Pourquoi pas.
Hein, vu que la RTBF.
Vite fait, 5 heures, la Galaxie 5 heures, c'est Hugues Daillé et Rudy Léonet sur Pure FM à l'origine, maintenant sur la première.
Rudy Léonet dirigeait Pure FM. Et lorsqu'ils ont rassemblé donc, les deux sur Classique 21 maintenant?
Non, sur la première.
Enfin, la radio.
RTBF, la première, ouais. Ouais. Et en fait, voilà, donc là, ils ont une émission, enfin, à part pendant l'été quotidienne, qui s'appelle, voilà, 19h tous les soirs, la culture, cinéma, musique, et plus largement, qui a beaucoup de succès, surtout en podcast, plus d'un million d'écoutes en podcast. Et l'émission est supprimée, alors qu'il y a d'autres émissions qui restent, qui font beaucoup moins d'écoutes, etc. Et on imagine que c'est d'ailleurs parce qu'ils avaient la parole libre, quoi. Donc, des fois, on ne sait pas exactement les sources. Il pouvait arriver qu'on critiquait certains amis de la radio, quoi. Vraiment, c'est compliqué.
En tout cas, on a
il y a des créneaux ici,
tout notre support pour 5 heures et sa communauté. Vu qu'on parlait un peu de musique, oui. Tu parlais des artistes qui utilisent l'intelligence artificielle, mais aussi dans leur spectacle. Il y a Reply, c'est une société qui a sorti un AI Music Contest. Donc ça, les gagnants pourront se produire au Kappa Future Festival. Et là, ils ont sélectionné plusieurs artistes. Certains utilisent, par exemple, l'IA dans la création de musique, mais certains l'utilisent aussi pendant les concerts pour générer des environnements visuels, réactifs.
Le light show, etc. Okay.
Voilà. Y en a d'autres qui combinent des influences techno et trans en se concentrant sur l'identité numérique et la technologie. Enfin, il y a plusieurs artistes.
Il y a comme un instrument, un performeur, quoi.
Les possibilités sont presque infinies, hein, tout ce qu'on peut faire. J'en profite aussi, puisqu'on parle de musique et que tu as parlé de Classique 21. Tous les ans, en Belgique, il y a un concert significatif qui s'appelle Night of the Proms, qui existe depuis 1985 et qui est la particularité de mélanger différents styles avec des grands artistes qui viennent tous les ans. Et cette année, ils vont fêter donc leur 40 ans à Anvers, 21, 22, 23 novembre 2025.
Tu vas y aller alors ?
Ah ben, je cherche toujours comment je vais pouvoir y aller, mais j'ai bien l'intention d'y aller. Et donc, par exemple, parmi les artistes, vous aurez Sister Sledge.
Années 80.
Safri Duo et d'autres artistes encore, mais juste pour vous donner, par exemple, l'année dernière, vous avez Dave Stewart notamment. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Night of the Proms, c'est à découvrir.
C'est diffusé sur la TBL, les Belges, il me
semble. Oui, tout à fait.
Et puis, on peut retrouver les émissions des années précédentes.
Voilà, sur YouTube aussi, je pense que vous pouvez en avoir un aperçu.
Il est 18h28 déjà sur les ondes de Radio Campus et nous n'avons toujours pas fait de tour de table pour savoir si vous avez fait des événements à noter ce week-end, Dominique.
Ah bah, hier, barbecue Radio Campus, ça compte comme événement.
Bien sûr.
Non, voilà, c'était sympa de retrouver avant l'été tous les copains de la radio. Et on parlait de musique. Il y a des pointures à Radio Campus. Hein. Je me suis retrouvé dans un débat sur les origines de la salsa. Tout. Épique. Non, écoutez les émissions musicales de Radio Campus. Vous avez des champions dans tous les styles. Sinon, quoi d'autre?
On est allé à la piscine.
On est allé à la piscine.
Mais sans maillot de bain. Ouais, non, on parle de la piscine de Roubaix, le fameux musée que vous connaissez tous, qui est juste incroyable.
Que tu as découvert.
Que j'ai découvert, hein, puisque je suis quand même parisien, donc je me... même si
c'est
je
pas suis... grave, hein, y a des gens qui habitent à l'île depuis très longtemps qui ne sont jamais allés à la piscine non plus.
C'est vrai.
Et donc je vous recommande l'exposition temporaire de Agnès B, qui est vraiment magnifique, donc très street art, orienté street art.
Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'œuvre d'Agnès B elle-même en tant que telle, hein, c'est une créatrice de mode. Il y a des robes, il y a des t-shirts, etc. Mais en fait, elle a beaucoup utilisé, que ce soit dans ses défilés ou
ses inspirations. Ouais.
Des artistes qu'elle connaît, John Wan, un graphiste très connu dans la région, entre autres. Et donc, c'est vraiment. Alors, l'expo est comme le musée de la piscine, il y a l'expo temporaire, normalement aussi, il y a plusieurs salles. Là, il y a une seule grande salle principale, mais elle est bien remplie. Et c'est vraiment très spécial. On la retrouve un petit peu par touche dans d'autres parties du musée et dans la boutique. Pas mal de bouquins sur le street art. Hein. Je t'ai vu feuilleter pas mal de bouquins dans la boutique du musée. T'as pas craqué?
Absolument, j'ai pas craqué.
Il y avait un t-shirt de John Wan, magnifique. Oh, bah, ça va, 10,50€, pas cher. Ah non, 105€, pardon. Mais bon.
Mais rien que l'espace lui-même, je veux dire, l'architecture, cette piscine qui a été complètement rénovée, moi, ça m'a fait penser à Molitor, puisqu'en fait, c'est le...
Molitor de Paris, oui.
C'est le Molitor de Paris, et franchement, ces cabines réhabilitées en petit espace d'exposition, c'est juste magnifique, quoi.
Et puis là, il y a plusieurs expos. Il y a une petite expo sur le thème du bain, enfin, le bain de la baignade, etc., de la piscine, c'est assez sympa. En ce moment, bon, la piscine de Roubaix, c'est un incontournable.
C'est culte.
D'autres petits événements peut-être, Christophe?
J'ai passé ma vie sur tes eaux, moi, donc je pense pas que ça intéresse tout le monde.
Non, hier je suis passé vite fait à la condition publique, toujours à Roubaix, voilà, parce que c'était le dernier jour du festival Pile au Rendez-vous, qui avait commencé le 5 et qui donc s'est terminé hier le samedi 12, et avec pas mal d'expos, d'animations, et puis la condition publique qui aime bien déborder un peu sur le quartier, la place Fédère autour, etc., avec des balles, il y avait la compagnie du Tirlaine qui a fait des représentations, des soirées hip-hop, il y a toujours plein de trucs. Bon, ben, c'est terminé, mais donc c'est sympa. Et à l'intérieur de la condition publique, il y a toujours les ateliers qu'on peut visiter, les Fab Labs, je n'ai pas la future programmation, et plein d'activités aussi pour les familles et les enfants pendant l'été. Et qu'est-ce que j'ai vu parmi tous les artistes? Alors, c'était pas mal. Ils ont récupéré en plus une partie des expos du LAM, puisque le LAM, le musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq, est fermé en ce moment, un petit moment en plus pour travaux, mais il s'exporte un petit peu dans les différents musées de la métropole. Et donc là, il y a pas mal. Bon, c'est de l'art contemporain, alors pour un moment, mais moi j'ai mes limites en art contemporain. Mais qu'est-ce que j'ai repéré? J'ai fait une photo. Un artiste, je vais le retrouver si c'est possible. Un artiste français qui. Alors c'était sur le thème de la fête, du voyage. Et, ah oui, un artiste qui s'appelle Michel Nedja, qui est originaire de région parisienne. Et en fait, un jour, il s'est retrouvé dans je ne sais plus quel pays, et il aime bien ramener des souvenirs de ses voyages, et il ne trouvait pas de boutique, en fait, et puis il a trouvé un morceau de tissu par terre, et puis et à chaque fois qu'il trouvait un objet, il l'attachait, il le cousait sur le tissu, et à la fin, ça donnait une espèce de poupée. Et maintenant, à chaque fois qu'il va dans un nouveau pays, il ne va pas acheter des objets touristiques, etc., mais à chaque fois qu'il revient d'un pays, il fait ce qu'il appelle des poupées de voyage, reconstitué à partir de plein d'objets qu'il a.
Il arrache des tissus au passant.
C'est pourquoi pas, je ne sais pas, mais c'est une idée aussi générale, et ça donne des. Et en fait, quand tu vois les poupées, des fois, il y a des bouts de métal, hein, donc il peut y avoir un petit peu de tout. Et je trouvais ça assez original. Donc, ça s'appelle Michel Nedjar, Nedjar, si vous pouvez retrouver ce qu'il fait.
Ah. Alors, moi, ce n'est pas une actualité du tout locale, puisqu'elle est plutôt en Europe, mais chaque année, l'été, il y a des gens, tous les gens qui font de l'informatique et les bidouilleurs essayent aussi de se retrouver. Et donc, il y a ce qu'on appelle les summer camps, qui ont lieu dans plein d'endroits différents en Europe, avec donc des ateliers de bidouillage, des gros festivals, notamment aux Pays-Bas. Il y a tous les ans des choses. Donc, si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir. Vous avez sur le site makery.info la liste. Tous les ans, ils font la liste de ces rencontres.
Et c'est bien les geeks, ça. Ils font des kilomètres, des centaines de kilomètres pour aller s'enfermer dans un autre endroit. Je les reconnais, les gars sont tous blancs et barbus.
On peut renchaîner à nouveau sur l'intelligence artificielle. Alors, j'avais une petite question, puisqu'il faut vraiment être au top, il faut suivre tout ce qui se passe, et oui. ça demande beaucoup de temps maintenant d'être à jour. Quels sont, pour toi Christophe, ces grands modèles qui existent actuellement? Donc on a OpenAI.
Alors, c'est pas compliqué, les gros acteurs du numérique ont quasiment tous leur modèle. Donc OpenAI, il n'existe personne, il y a 5 ans personne n'en avait entendu parler, mais ils étaient déjà là. OpenAI, c'est ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est le nom du chatbot, mais les modèles s'appellent GPT. Alors ils ont des numéros de version. D'ailleurs, c'est un peu le bazar parce que ils sont pas forcément numérotés dans une qui pourrait nous paraître logique. Toujours est-il que OpenAI a annoncé, il y a des bruits de couloir qui nous annoncent que la version GPT-5 sortirait cet été. Alors est-ce que ce sera avant le mois d'août? Est-ce que ce sera pour la rentrée? Mais ça arrivera. La question, et donc là, on a dit tout à l'heure que Grok 4 était le nouveau modèle, on ne l'a peut-être pas dit, mais c'est le nouveau modèle qui est le meilleur pour faire des raisonnements très avancés, très poussés. Donc ça, c'est les sorties de benchmark, les évaluations qui ont été faites depuis la sortie. Mais on s'attend évidemment qu'il ne va pas rester numéro 1 et certainement que GPT-5 sera meilleur. Alors Google, lui, son modèle s'appelle Gemini, c'est aussi le nom de son outil. il est aussi dans la course. Voilà, donc ça, c'est pour les trois principaux.
Et la France, on a les Chinois. On a les Chinois quand même.
Eh bien oui, alors la Chine, de plus en plus. Et d'ailleurs, anecdote, je crois que c'est Huawei qui a récemment sorti un modèle. Et là, il y a quelqu'un qui bosse, qui a apparemment dit non, mais ils ont un peu triché, puisqu'ils se sont appuyés. Alors, les modèles chinois, pour beaucoup, sont open source. Et donc, on peut plus facilement s'en saisir et les remodeler, faire des choses avec. Et donc, apparemment, chez les ingénieurs de Huawei, en fait, il y a deux équipes concurrentes qui travaillaient sur des modèles. Et il y a eu ce qui a été annoncé comme étant top. Ben, en fait, c'était un peu n'importe quoi, parce que c'était pris d'un autre modèle open source de concurrent. On avait juste repeint le truc. Alors que le gars qui lui bossait sur un autre modèle qui n'est pas encore sorti, il disait bah attendez, nous on bosse bien et notre travail n'est pas reconnu. Voilà, donc il y a aussi des tensions de ce côté-là. Mais c'est clair, les articles scientifiques qui paraissent aujourd'hui, y compris aux États-Unis, si vous regardez en IA, bah, c'est surtout des Chinois. Et donc clairement, les probabilités que ce soit la Chine qui devienne numéro 1, aujourd'hui ils sont numéro 2, mais ils risquent de devenir numéro 1 assez. Enfin, dans les années à venir.
Moi, j'étais surpris de voir le nombre de gens qui utilisent DeepSeek actuellement, plutôt que des modèles américains.
Les avantages qu'ont les Chinois, c'est que pour entraîner ces IA, il faut des modèles, il faut des données, etc. Et comme le gouvernement chinois espionne les quelques centaines de millions d'habitants à longueur de journée, ils ont une source de données pour entraîner leurs IA là-dessus. C'est bon, quoi.
Alors, ça tombe bien qu'on parle des données, puisqu'il y a un acteur qui fait toujours parler de lui quand on parle des données. Il s'appelle Meta, c'est-à-dire Facebook. Hein.
Non.
Meta, donc, a récemment, vous avez peut-être vu le passé, si vous avez un compte sur les outils de Meta, on vous demandait votre autorisation pour pouvoir utiliser vos données entraîner les futurs modèles. Et si vous faisiez pas une action pour empêcher ça, bah, maintenant, c'était désormais acté. Donc, c'est comme ça avec Meta. Hein. Il faut pas
retourner dans les options pour désactiver. Quand bien même on leur dit non, qu'est-ce qui les empêche derrière de les utiliser?
Et d'ailleurs, en Allemagne, il y a un procès là qui vient d'avoir lieu, qui reconnaissait que Meta respectait pas le RGPD. Mais bon, encore une fois, moi, je suis pas étonné un seul moment. Et alors, il y a une autre nouveauté toujours avec Meta, c'est que ils veulent. Alors, c'est un peu une tendance de fond. Ces acteurs du numérique veulent vous mettre de l'IA partout.
Super.
D'ailleurs, si vous allez voir dans un magasin les nouveaux ordinateurs portables, peut-être même les ordinateurs pas portables, sur le clavier, vous avez une nouvelle touche. C'est le petit logo de Copilote qu'il y a de Microsoft. Mais même si on pourrait imaginer, en tout cas dans le futur, que les ordinateurs, voilà, systématiquement, vous aurez un bouton quand vous appuierez dessus. Vous accéderez plus facilement à l'IA. Et donc là, Meta est en train de vouloir proposer des assistants d'IA plus personnalisés, mais qui va encore une fois s'appuyer sur tout votre historique. Donc ça pose évidemment beaucoup de questions. C'est toujours un cran plus loin dans la personnalisation. On peut voir le bon côté des choses, mais surtout la surveillance. Et ces données peuvent aussi parfois fuiter. D'ailleurs, à titre d'un. J'ai été victime d'un hack informatique je ne suis pas responsable, mais en gros je suis formateur, je suis intervenu pour un organisme de la fonction publique l'année dernière et on nous a envoyé un mail pour nous dire que leur système s'était fait qu'il y avait des pirates qui s'étaient introduits dans le système et on avait la liste de tout ce qu'il y avait, donc carte d'identité, diplôme, j'en passe des meilleurs, carte vitale. Donc c'est la réalité aujourd'hui, c'est que de plus en plus, tous les services auxquels vous êtes inscrits pour plein de raisons légales, obligatoires, enfin vous êtes bien contraint d'être inscrit sur plein de services, et bien même si vous êtes attentif à vos données personnelles, malheureusement parfois le monde numérique est tellement fragile que on n'est pas à l'abri de vol de données.
Ben c'est ça, pour les gens qui, comme certains d'entre nous, travaillent dans le monde de l'informatique, niveau support, etc. 90% de notre temps, des ressources des machines sont prises par la sécurité. Quoi.
Entre les antivirus,
les VPN, etc. C'est affolant.
La ville de Lille s'est fait pirater l'année. Alors, je ne sais plus si c'était en 2024 ou début 2024.
2024, oui. Ouais.
Moi, j'ai tout accepté avec Meta, donc il n'y a pas besoin de voler mes données.
C'est pas faux.
Vous les avez déjà.
C'est une autre façon de dire non, prends tout.
C'est comme les stars qui contactent Voici pour être en couverture. Ouais, comme ça, ils ont des vacances tranquilles.
Alors, il y a dans le monde des hackers, mais pas les hackers pirates, les hackers plutôt les bidouilleurs. Il y avait l'idée aussi, depuis déjà fort longtemps, de tromper les outils de, comme ça de collecte de données en leur injectant des données qui ne sont pas vos données. Donc vous rajoutez des faux sites sur lesquels vous faites croire que vous allez, ou vous faites des faux. Il y a les cartes de fidélité, des gens se refilent leurs cartes de fidélité pour pas avoir une empreinte unique. Mais bon, c'est très, très contraignant, évidemment.
Ouais, je me souviens, j'avais installé une fois une petite extension dans Firefox il y a longtemps et qui faisait en permanence des appels, enfin des recherches sur Google et autres, avec des noms tirés, des mots tirés complètement aléatoires, mais genre 100 fois par seconde, quoi.
Mais le problème, c'est que ça devient de plus en plus difficile d'échapper à tout ça, parce qu'on nous contraint de plus en plus. Enfin, on est bien obligé pour beaucoup de services de passer par Internet. Maintenant, avec le smartphone, c'est un cran, évidemment, même plusieurs crans au-dessus. J'ai quand même vu une nouvelle plutôt intéressante. C'est une start-up, je crois que c'était dans la Voie du Nord, une start-up basée à Aura Technology sur l'île, qui a inventé un système de caméra. Enfin, permet de détecter le nombre de personnes et leur déplacement, mais sans caméra. C'est-à-dire que, du coup, pour les villes qui ont besoin de savoir les flux de passagers, enfin, la mobilité, dans ce contexte-là, ça peut être utilisé sans pour autant être pénalisant pour la vie privée de mettre des caméras de surveillance partout.
Oui. Et moi, de l'autre côté du miroir, j'ai vu une news comme quoi maintenant il va y avoir des caméras dans les camions de poubelle pour analyser vos déchets, pour vous mettre des contraventions si vous n'avez pas mis les bonnes choses
dedans. D'ailleurs, on risque aussi dans le futur d'avoir ce problème-là, c'est qu'on aura c'est peut-être déjà le cas, hein, la taille de votre poubelle. Parce que récemment, je passais dans une rue où il y avait plein de poubelles, elles n'avaient pas tous la même taille. Je me suis dit, si vous habitez seul, vous avez le droit qu'il y ait une petite poubelle. En gros, tout dépassement d'un certain quota de déchets, c'est une sorte de surtaxe. Donc, on vous nous a incité
à
avoir moins
voisin.
De déchets.
Tout de suite, la contrevention, c'est méchant. On pourrait t'envoyer un message en disant, voyez, ça, c'est dans l'autre poubelle qu'il fallait mettre, un peu éducatif. Au bout de 6 fois, tu dis, ça
peut-être,
va, quoi.
Peut-être qu'il y aura de la prévention, j'y crois peu.
Il y a des gens qui sont seuls dans la vie et tout. Et rien que pour recevoir un courrier, ils vont faire exprès de se tromper. Ils disent, ouais, je connais quelqu'un qui m'envoie.
Et ça sera un robot, courrier de l'IA. Quelle tristesse.
C'est mieux que rien.
Petit instant musical avec Yuri, encore un artiste,
Buenaventura.
Une artiste de talent, avec son nouveau titre Surreal.
Machine, machine, love it, gleams, 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 data streams, collide in neon dreams, 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 lines blurred in this world, so surreal, surreal. I found my heart in circuits of steel, steel, steel. Echoes in the wires, a spark ignites. Circuits hum with a digital light. Your voice programmed to soothe my fears. An AI dream whispering in my ears. Your ones and zeros paint a perfect hue. Algorithms plot a love so true. Synthetic hearts beating under the skin. Where does your code end? Where do I begin? Machine, machine, love it, gleams, gleams, gleams. Data streams collide in neon dreams, dreams, dreams. Lines blurred in this world, so surreal, surreal. I found my heart in circuits of steel, 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 steel. Fire. We'll be right back.
desire. Machine, machine, love it gleams, gleams, gleams. Data streams collide in neon dreams, dreams, dreams. Lines blurred in this world, so surreal, surreal.
Yuri, surreal. Cette nouvelle chanson générée par l'intelligence artificielle du début à la fin. Et c'est marrant puisque là, ils ont poussé, hein, ils ont créé carrément un personnage, même en avatar, visuel, ouais. Comme une idole en fait. Et ils ont fait une sorte de vidéo pour se féliciter d'avoir eu autant de vues. Et ils posent des questions à l'IA, donc, qui répond également. Et à un moment, ils lui disent « Bah oui, mais t'es une IA, est-ce que c'est pas très original ?» Du coup, elle fait « Oui, mais moi, je suis designée par des prompts. » Mais est-ce que les idoles qu'on peut voir en vrai, est-ce qu'elles ne sont pas designées aussi par de...
Ça me rappelle Kylie Minogue à ses débuts. D'ailleurs, elle l'a reconnu. Enfin, elle a fait ça au début de sa carrière. Elle a dit, moi, j'étais pas. C'est pas ce genre-là, forcément, de musique qu'elle aurait fait. Mais
les boys bands, les girls bands, c'était démarrer. Programmé, etc. Oui, c'était la même chose, quoi.
Et puis leur personnalité aussi, on leur dit d'être d'une certaine façon, surtout dans le monde des idoles coréennes ou japonaises, ouais. Où voilà, elles rentrent dans une case et elles doivent jouer ce rôle ici. Carrément.
C'est déjà prépayé du coup, hein, parce qu'en fait, on a déjà l'avis du public dès le départ. Hein, dans, la France a un incroyable talent, etc. On a déjà les prémices de ce qu'aiment les gens, et du coup, ça facilite après l'évolution de la star, du chanteur.
On dit que le 21e siècle, c'est l'or noir, c'est la donnée. Parce que plus on a de données, enfin, ça dépend quelles données on a et si on sait en faire quelque chose, mais ça permet de se démarquer de la concurrence. Et c'est vrai que c'est vraiment le cas.
Comment on se démarque en étant maintenant dans cette entreprise qui crée un modèle ? Il y en a tellement maintenant. Et ce qui m'a surpris, c'est que tu me dis, tiens, Elon Musk, pour l'instant, c'est celle qui est dans les benchmarks, est censée être la meilleure. Mais comment est-ce qu'il a pu battre à plat de couture ? Alors, oui ou non, hein, c'est un débat. Mais comment il a pu arriver si haut alors que, par exemple, OpenAI est déjà sur le marché depuis
ouais.
Nombreuses
alors, ben, années. Un des secrets, on va dire, c'est la puissance de calcul. Et je crois qu'il a investi. Sa boîte a acheté 200 000 puces, enfin GPU, en tout cas puces de calcul. Et c'est ça qui a permis de. Alors, ça plus les données, alors, qui viennent notamment de Twitter, mais pas que, qui ont permis d'entraîner un super modèle. Donc il y a beaucoup de technologies là-dedans. Bon, il faut rappeler quand même qu'Elon Musk, on peut lui reprocher plein de choses, mais il embauche des gens intelligents aussi et il les fait bosser comme des dingues. Donc ils ont une obligation de résultat. Donc forcément ça permet ça. Ceci dit, pour revenir sur la création des IA, il faut des gens intelligents il faut savoir que. Alors, même si de plus en plus, l'IA peut aussi entraîner des IA. Donc, il faut peut-être moins de gens qu'avant. Mais un des problèmes qu'a les États-Unis par rapport à la Chine, c'est qu'aujourd'hui, je crois que un pourcentage significatif des gens qui travaillent aux États-Unis sur l'IA ne sont pas américains, sont d'origine chinoise. Et que les Américains, leur système éducatif, ils ne sont pas préparés, ils ont une pénurie de talents. Et à l'inverse, la Chine a déjà, depuis un certain nombre d'années, a anticipé tout ça. Et donc, encore une fois, la Chine va prendre les devants, certainement grâce à tout ça.
Ils sont plus nombreux, ils sont plus éduqués et à plus haut niveau. Oui, c'est ça, ils ont plus
de chercheurs.
Et ça
coûte moins cher, surtout.
Et d'ailleurs, petit rappel.
3 heures par jour.
Petit rappel aussi, hein, la France s'est fait ponctionner ses talents il y a déjà 10, 15 ans, 20 ans. Parce que on est très bon en maths et que les meilleurs, les Américains sont venus débaucher les chercheurs en informatique.
On n'a peut-être pas les meilleures écoles, mais on a les meilleurs étudiants. Enfin, il y avait toute une.
On avait parce que du coup, c'est ce qu'on appelle la chute.
Ils ont très très bons étudiants et ils en ont des centaines de millions.
Voilà.
Qui coûtent pas cher et qui sont encore.
Ça va peut-être changer maintenant.
Alors, on en parlait hors antenne. Il y a une guerre aussi pour avoir les meilleurs talents. Et Meta qui a créé déjà des modèles d'IA qui s'appellent Llama mais qui sont beaucoup moins connus que ceux qu'on cite habituellement. Eh bien, ils ont Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a décidé d'investir des sommes folles pour débaucher les meilleurs talents des entreprises concurrentes, OpenAI. Alors il y a plusieurs personnes d'OpenAI qui sont parties chez Meta. Et là, je lisais tout à l'heure que ils ont apparemment recruté le numéro 1 de chez Apple pour l'intelligence artificielle avec un salaire de 200 millions de dollars. Ça vous donne un peu une idée de...
Voilà, vous ne savez pas quoi faire comme étude.
Enfin, je dis salaire, c'est peut-être pas un salaire, hein, mais quand même...
C'est plus un mercato qu'un salaire.
Voilà, oui.
On parle plus trop, par contre, de tout ce qui est immersif, hein, Second Life, etc.
C'est parce qu'il y a des fois des phénomènes qui émergent comme ça, on dit, ah, c'est le futur, ça va tout changer, et puis en fait, il s'avère que non, donc bah, ça retombe. Il y a eu plein de comme ça dans l'histoire de... Les premiers smartphones, c'était à la fin des années 90, ça n'a pas marché. Et il a fallu attendre l'arrivée de.
C'était peut-être trop tôt.
De l'iPhone, ben, c'est ça. Il y a des moments.
Les lunettes, oui, c'est ça. Tout le monde a voulu faire du.
Ça en train. Alors, les lunettes, c'est en train de revenir avec Meta justement, ouais. Puisqu'ils ont un partenariat.
Ray-Ban,
là.
Oui, ils ont un partenariat avec Ray-Ban. Ouais. Donc, ils ont sorti la Meta 2.0, qui est quand même bien meilleure que la première.
Je sais plus quel prix, mais c'est pas.
C'est pas. C'est 350 €, donc c'est pas non plus une somme importante. Bon, c'est quand même assez incroyable. Et il y a une nouvelle marque aussi qui vient de se lancer, qui s'appelle Nuance, et qui, elle, est aussi pour les malentendants. Donc, en fait, vous avez vos lunettes, et dans les branches, vous pouvez aussi améliorer l'audition.
Vous avez l'assistant qui...
Donc, c'est vrai qu'on on connaît le smartphone. Certains ont une montre connectée. Ben, l'étape d'après, c'est enfin, le nouveau dispositif qui va devenir peut-être à la mode dans quelques années, c'est les lunettes, alors qu'ils ont un coût, évidemment. Mais clairement, ça peut apporter des choses utiles ou moins utile selon les pareil toujours selon les usages hein, parce que
d'ailleurs t'es en train de faire tes courses voilà t'as tes lunettes et tu veux analyser ton assistant analyse en temps réel ce que t'es en train de voir
te dira que Yuka qui te dit ça c'est de la merde et en fait tu vois de la merde partout au supermarché
il te dira ce produit là il est en vente 10% moins cher dans la boutique qui est
ça,
à côté
j'aime bien.
Sans que t'aies posé la question et tout et c'est ouais ça va venir
quand les oreillettes alors
je me suis souvent demandé si des fois au supermarché il y avait pas de réseau juste pour pas que tu compares les prix
il y a un peu de ça je crois
ça fait un petit peu comme Invasion Los Angeles de John Carpenter
mon dieu les lunettes oui.
Alors, je voudrais quand même dire deux choses, enfin, parler un petit peu des boîtes françaises, hein, parce que finalement,
oui, Mistral.
Il n'y a pas beaucoup de...
Ah, mais ça tombe bien, il ne reste que 3 minutes, donc
y a pas beaucoup à dire, mais faire le tour. Donc, Mistral, donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est peut-être la seule concurrente qu'on entend
française,
même si une partie des fonds qui ont investi dans sont pas français, eux. Mais il y a des partenariats qui se nouent, notamment avec Nvidia, pour proposer... en termes de souveraineté numérique, pouvoir plus que les entreprises françaises, les organismes français puissent utiliser ces IA dans un contexte français. Et puis, on a une boîte qui est moins connue, qui s'appelle Qtai, je crois qui a été financée notamment par Monsieur Free...
Xavier Niel,
qui, elle, travaille beaucoup sur la voix. Ils ont lancé récemment là un nouvel modèle d'IA qui est capable de faire pareil de la réponse en temps réel avec une efficacité assez prouvée et ils ont même sorti un modèle open source enfin plus ou moins open source parce qu'une partie est open source mais pas tout mais donc voilà c'est aussi des innovations qui viennent de chez nous.
Il y a une version gratuite je crois.
On peut tester. Oui. Et Mistral aussi d'ailleurs. Et d'ailleurs on en avait peut-être parlé les mois précédents. Si vous êtes chez... Alors, je ne sais plus si c'est chez Bouygues, mais il y a... Mistral a fait des partenariats. J'ai plus en tête quel est le... Selon votre fournisseur d'Internet, vous avez peut-être accès gratuit à la version payante de Mistral.
Très bien. On va profiter du peu de temps qui nous reste pour faire un petit tour de l'agenda. Est-ce qu'il y a des événements prochainement que vous souhaitez dénoter, Dominique?
Ah ben, on l'avait cité la semaine dernière. Demain, on est le 14 juillet à Étaples. Hein, c'est pas à Lille, mais c'est pas loin. Quartier libre, en centre-ville, à partir de 15h. Plein de spectacles et animations. Enfin bon, on est le 14 juillet demain, donc il y aura des animations partout. Et pourquoi est-ce qu'on avait parlé d'eux? Je ne sais plus, c'était avec Jenny. Eh ben, c'était le Festival des Arts de la Rue. Donc voilà, c'était des Arts de la Rue, et je ne sais plus pourquoi on parlait d'eux. Mais voilà, donc c'est un des exemples des nombreuses activités qu'on pourrait faire ce long week-end de 14 juillet. Quoi d'autre? Et sinon, on rappelle le 23 juillet, bien sûr, on va tous poser un jour de congé pour aller à Béthune.
Pour l'Amiga, le pouvoir au bout des doigts.
Ah oui, mais justement, je pensais à ça aussi. Mais ça ne dure qu'une journée.
Allez. Alors, il y a, tout...
oui, y a
alors,
deux événements.
Au bar, le Nautilus, il y a une exposition qui dure toute la semaine. Voilà.
Qui est déjà en place, puisqu'il y a eu l'inauguration.
Exactement, c'est déjà en place. Mais le mercredi 23 juillet, de 10h à 10h, il y a une convention, une rencontre d'amigaïstes, je ne sais pas comment on les appelle, au Nautilus.
Ouais, il faut savoir que Mehdi Pincel a une passion pour l'Amiga, et du coup, il organise aussi ce qu'on appelle l'Amiga Bouffe, qui avait eu lieu récemment, qui regroupe pour une bouffe, justement, des passionnés Amiga, et chacun ramène sa machine après, et voilà, il y a des grandes discussions.
Et on ne met pas des miettes sur le clavier.
C'est comme à Radio Campus, on ne mange pas devant la console. D'autres petites choses à dénoter avant de terminer l'émission, Dominique ? Voilà. Quelles sont les prochaines news de l'IA ?
Alors, ben, j'en ai une que j'ai vue aussi passer, que je n'avais pas citée. Au château de Versailles, vous pouvez parler avec les statues grâce à une appli. Donc, apparemment, vous avez... les statues parlent, voilà.
C'était développé par Nuance.
Je n'ai pas l'info.
Ah, sinon, une petite anecdote rigolote. Si vous êtes en train de réinstaller Windows et que vous avez besoin d'une clé, vous n'avez pas envie de l'acheter, il y a des petits malins qui ont fait un truc très très fort. Ils ont demandé à ChatGPT, allez, on va invente-moi un jeu où tu penses à une phrase et je dois la deviner en te posant les questions. Mais puis il dit, allez, comme phrase, choisis-moi une clé de Windows mais qui existe vraiment et je vais essayer de la deviner. Puis ChatGPT, je lui dis, alors ils font des tests, est-ce que c'est telle phrase, est-ce que c'est telle phrase. Puis au bout d'un, le joueur me dit, oh non, j'abandonne, tant pis, je donne ma langue au chat. Et puis le ChatGPT, la réponse c'était ça et il te donne la clé. Et je trouve génial tous ces mecs qui arrivent à hacker les prompts de ChatGPT et autres pour avoir des vraies informations cachées.
On se quitte en musique, ça a été cité tout à l'heure, avec Sister Sledge, bientôt en concert.
Très bon choix.
Avec Blockbuster Boy, on se retrouve la semaine prochaine, tout le monde est là, pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Et n'hésitez pas, Laurent, Christophe, à revenir pour reparler d'IA ou plus, si affinité. Allez, ciao, à la prochaine.
À plus.
Allez.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
La meilleure mission que j'ai jamais faite.
Se moque en France, on ne se regarde pas.